ce, enfin, c'est question d'éclairage, mais les personnes restent, hein, vous restez. Vous restez parce que quand même, l'idée de la table ronde, c'est un peu de voir comment, finalement, on a croisé trois discours, on va dire, sur les incertitudes. Hier, c'était largement les climatologues et ce que j'appelle, pour synthétiser les choses, les biotechniques. On a eu ensuite la position des économistes et des sciences sociales, puis maintenant la position des entreprises. Il y a quand même des positionnements un peu différents. Alors, je te mettrai bien à contribution, vu que tu as beaucoup participé. En gros, est-ce que tu peux... Pardon. Oui, excuse-moi. Excuse-moi, c'est moi qui... Oui, alors Stéphane et Paul, vous pouvez venir là. Il n'y a peut-être pas assez de chaises, mais ça ne fait rien. Bon. Oui, pardon. Oui, alors, excusez-moi. Donc, l'idée, c'est un peu de faire un petit carrefour pour voir un peu... Bon, on ne va pas faire de synthèse, mais j'ai entendu quand même des discours assez différents de la part de ces trois catégories d'acteurs. Et peut-être de donner la parole à chacun des acteurs pour voir comment ça peut modifier, comment ils voient les choses pour améliorer les connexions, peut-être avoir des attitudes un peu plus intégrées, etc., etc. Alors, déjà la position des sciences du climat, la question est un peu floue, mais tu vois ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'on a quand même des points de vue très, très, ils sont pas inconciliables, mais il faut qu'on réfléchisse à la façon de les concilier pour pouvoir avancer ensuite.
Je crois que t'as... Oui, une première chose, avant de répondre à cette question, on voit bien qu'évidemment, on n'associe jamais le mot adaptation au mot dynamique, mais il est clair que l'adaptation, c'est un processus dynamique. Donc ça, c'est tout le monde en a conscience, mais c'est toujours bon de répéter. C'est évidemment quelque chose qui va continuer à évoluer. Je crois qu'en matière de... On peut mettre le mot qu'on veut derrière, d'interdisciplinaire, multidisciplinaire, de co-construction... Il faut passer d'une étape qui est en gros celle des 10 dernières années où en fait on fait des projets de recherche, JCC, ANR, autres que sais-je encore, où on met ensemble des gens, mais c'est plutôt sur des questions qui sont prédéterminées à l'avance par des comités de pilotage, etc., etc. Et puis c'est un petit peu ce que je dirais des projets d'opportunité quelque part. Et je pense que c'est une phase nécessaire. Et je crois que maintenant il faut commencer à penser à la deuxième phase, où on va au-delà et on met vraiment en place des lieux, pour pas d'autres mots, hein, des lieux où des processus de co-construction comme ceux qu'a montré Stéphane, enfin on pourrait donner d'autres exemples, sont effectivement pris en compte, travaillent de manière régulière, sur une longue durée, et donc là, donc moi je reviens toujours à cet exemple puisque je crois qu'il y a déjà des structures comme ça qui existent dans certains endroits. Donc, je pense que les agences de l'eau, enfin en tout cas certaines agences de l'eau peuvent être prises comme exemple pour ça. Et je crois qu'il y a une généralisation qui est nécessaire en tout cas, ou en tout cas que le concept lui se généralise, après qu'on le décline de manière différente, je pense que c'est aussi nécessaire. Donc voilà, je crois qu'en tout cas il faut passer d'une phase où on fait des tas de projets qui sont nécessaires et on apprend des choses, etc., à une phase où on se rapproche évidemment plus du terrain et donc où forcément les choses deviennent plus difficiles parce qu'on est confronté à d'autres changements globaux et environnementaux et en particulier à tous les autres impacts anthropiques dont plein de gens à juste titre ont mentionné l'importance. Dans le problème de l'eau par exemple, évidemment c'est central, je dirais presque dans le problème de l'eau, parfois le problème climatique est mineur, enfin, je dirais. Donc à la limite, et une fois de plus aussi, les incertitudes sur les autres aspects. Par exemple, personne ne sait ce que sera la politique européenne en matière de l'eau en 2040. Quoi. Donc, enfin, si quelqu'un sait, très très intelligent. Mais bon, or aujourd'hui, les plus grosses contraintes qui s'exercent, peut-être, sont les contraintes venant de la directive cadre sur ce qui se passe au niveau de l'eau. Donc, bon. Voilà, en tout cas, c'est penser à l'émergence de ces nouveaux lieux. Ça me paraît être un des éléments très importants pour continuer à avancer sur ces questions d'adaptation.
l'émergence et la pérennisation.
Et la pérennisation, absolument. Oui, oui. C'est-à-dire pas du coup par coup, comme c'est un petit peu le cas aujourd'hui. Et en même temps, les projets ne sont pas non plus ces lieux-là, puisque par définition, dans un projet, il y a un nombre réduit de partenaires, et même si on essaye d'agréger des gens divers et variés, c'est encore très difficile. Donc, et on n'a pas toujours les bons cadres non plus pour le faire.
Alors, Paul Watkinson était là hier, il nous a rejoint là tout à l'heure, et il était convenu que, alors, c'est un deuxième représentant du ministère chargé de l'écologie, parce que je n'ai pas vu le nouvel acronyme, alors le MED, ouais, bon. Et donc, lui n'est pas dans la même direction que M. Mondon, et plus assez impliqué sur le côté international, si tu peux dire un mot de la façon dont tu le vois se poser au niveau international.
Ça, je tourne à base en espérant que ça marche bien. Oui, bonjour, je serai assez bref parce que je comprends qu'on arrive un peu à la fin. Et je ne vais pas faire tout un exposé de l'action internationale dans ce domaine. Oui, mon rôle, moi-même, je suis chef de l'équipe de négociation climat et je pilote essentiellement notre position dans les négociations internationales au sein de la Convention climat depuis quelques années maintenant. Je négocie également pour l'Union européenne, y compris sur les questions de l'adaptation. Mais je pense une première question, pourquoi on met l'adaptation dans les négociations internationales? Ce qui compte avant tout, c'est de limiter le réchauffement. Et une grande partie de ce qu'on fait avec la Convention climat, et notamment le protocole de Kyoto, vise à maîtriser les émissions, à mettre en place une transformation de développement en ce sens. Mais nous sommes également conscients, il y a 194, voire 195 parties maintenant à la Convention climat, dont la vaste majorité ne sont pas des pays qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Pour la plupart, une cinquantaine, 50 quasiment PMA, quasiment autant de petits États insulaires, beaucoup de pays intermédiaires pour qui les impacts du changement climatique comptent autant que les questions d'émissions. Et si c'était vraiment une question de simplement maîtriser les émissions à travers la Convention climat, on s'en contenterait peut-être de travailler dans un format type G20, où G20 un tout petit peu plus, et on aurait déjà 90% des émissions mondiales, et la transition dont on a besoin se discuterait uniquement entre grands pays, et a sans doute un élément qui est important en ce sens. Donc cette exigence de mettre l'adaptation aussi à l'ordre du jour vient surtout de ces pays, qui exigent dès le départ que ça soit traité pleinement. Il y a eu quelques actions au cours des années, notamment pour aider les PMA à mettre en place des programmes d'adaptation. J'étais frappé en 2004, je présidais des négociations à ce sujet, comment les uns et les autres utilisaient les termes, mais différemment. Et donc je pense qu'un des trucs qu'on a fait qui était vraiment très intéressant, c'est le programme de Nairobi sur l'adaptation, parce que c'était l'occasion d'associer les opérateurs, les acteurs sur le terrain, les chercheurs, pour mettre ensemble la connaissance, les expériences et les connaissances, d'associer d'autres groupes à l'action. C'est quelque chose qu'on fait assez peu dans les négociations. On a tendance à se lancer dans une salle avec un bout de papier, projeter à l'écran un texte, et c'est ça la négociation. Non. En principe, l'action internationale, c'est mobiliser les uns les autres, mobiliser les acteurs dans les pays pour collaborer, pour faire en sorte qu'on puisse collaborer davantage. Nous avons mis en place d'autres instances. Je vois Marc-Antoine Martin qui est là. Nous avons un fonds pour l'adaptation mis en place sous le protocole de Kyoto, qui a un peu d'argent, de moins en moins, malheureusement, mais qui a déjà réussi à financer quelques actions en ce sens. Mais nous avons déjà décidé ces dernières années à renforcer le rôle de la Convention dans ce domaine en mettant en place tout un cadre d'action pour l'adaptation, avec une série, je ne vais pas lister l'ensemble des domaines d'intervention, mais ça porte sur les connaissances, ça porte sur le partage d'expériences, ça porte sur la gestion des risques et d'autres éléments de cette nature. Mais avec un nouveau comité qui est censé rassembler les connaissances et les expertises, bon, avec un certain nombre de personnes, forcément, ça va être très imparfait, mais il faut faire vivre ces systèmes en faisant autant que possible, brasser ces informations des différents pays, partager et surtout impulser des collaborations ailleurs. Parce qu'au sein des négociations, avec des instances comme un comité avec une vingtaine de personnes, on ne va pas faire grand-chose. Mais si derrière, il y a des réseaux qui se mettent en liaison, les réseaux d'entreprises, les réseaux de villes, les réseaux de chercheurs dans différents pays qui bossent ensemble, là, on peut faire beaucoup plus. Et je pense que l'objectif de l'exercice, c'est de faire vivre ces réseaux, c'est de mobiliser et faire vivre ces réseaux. Et je pense que si on réussit à faire ça, on a vraiment fait quelque chose. Parce qu'on est conscient, au niveau international, on ne peut pas faire de l'adaptation avec la Convention climat. Ça se fait surtout sur le terrain, ça se fait au niveau des villes, ça se fait avec les individus, ça se fait avec les entreprises, comme on a déjà entendu cet après-midi. Donc pour vraiment réussir, la question c'est comment est-ce qu'on peut faciliter ces actions des uns des autres. Et je vais terminer avec deux, trois éléments de là où on va peut-être aller, qui peuvent aller plus loin et qui fait le lien un tout petit peu avec ce terme d'incertitude. Pour clore, déjà, on est conscient que les pays ont besoin d'informations. On a besoin de partager l'information, les données, la recherche dans ce domaine. Il y en a qui ont beaucoup de capacités déjà, il y en a qui ont peu de capacités. Donc, toute la quête problématique de renforcement de capacités dans ce domaine, de partage d'informations, ça fait le lien évidemment avec l'ensemble du débat sur les systèmes climatiques de l'OMM, qui doivent également porter un appui au pays dans ce domaine. C'est un volet très important. Mais ça va de pair avec un renforcement des capacités institutionnelles des pays. Et ça, c'est quelque chose qui est au cœur de l'ensemble de questions de développement. Et là-dedans, la question du climat, que ce soit atténuation ou l'adaptation, c'est comment on va travailler avec les pays, avec les institutions, la mise en place, le renforcement en ce sens. C'est quelque chose qu'on fait depuis quelques années. Et dernièrement, et ça, comme j'ai déjà dit, la mobilisation des réseaux, la collaboration bilatérale, et je pense les partenariats qui font travailler les gens ensemble ont énormément à faire. Beaucoup ne se décidera pas directement dans la Convention climat, mais il faut inciter, favoriser, faciliter ces actions. Dernièrement, la question du financement. Et clairement, cette question se pose pleinement. Comment est-ce qu'on va trouver de l'argent pour faire tout ça? Je termine par ça parce que je trouve que c'est très réducteur de dire que ce dont on a besoin de plus, c'est de l'argent. Et parfois, dans les négociations, on a l'impression que c'est que de demandes pour de l'argent. Et ça ne suffit pas. En revanche, s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de mobilisation de ressources financières supplémentaires par rapport à ce qu'on arrive à mobiliser aujourd'hui, on n'y arrivera pas. Pour la période Fast Start, ces dernières années, où on s'est engagé à mobiliser en France 420 millions par an pour le climat, ce qui n'est qu'une petite partie de ce qu'on fait globalement avec l'AFT et les autres instances, on a réussi l'année dernière à augmenter la part de l'adaptation dans le financement Fast Start, mais j'ai quelques doutes sur la réalité de ce phénomène, parce que ce n'est qu'une sélection à l'intérieur de l'ensemble des projets qu'on finance à travers l'ensemble des activités de l'AFT, du FFM et d'autres instances. Donc il faut aller plus loin, et surtout il faut avoir plus de possibilités de financer le renforcement des institutions, des capacités dans les pays. Et malheureusement, nos institutions ne sont pas forcément très bien outillées pour faire ça en ce moment. Là, le manque de subventions publiques se voit malheureusement dans ce domaine. On arrive à faire beaucoup plus facilement des prêts aux pays pour faire des actions, y compris dans le domaine de l'adaptation, que peut faire des dons. Mais malheureusement, il y a beaucoup de pays qui ont vraiment besoin de dons pour le renforcement des capacités essentielles. Ça nous amène bien sûr dans l'ensemble du débat sur la mobilisation de nouvelles sources. Je ne vais pas ouvrir ce débat maintenant, mais c'est l'étape essentielle qu'on doit franchir maintenant si on veut vraiment mobiliser l'argent qu'il faut, que ça passe par le fonds vert qu'on a mis en place, par le fonds pour l'adaptation qu'on a déjà mis en place et d'autres instances, pour vraiment pouvoir faire quelque chose d'utile. Sinon, on va faire que parler et ça, ce n'est pas forcément l'objectif.
Je donne la parole à Stéphane, d'abord parce qu'il y a peut-être un élément pour entretenir le discours de Paul, mais aussi pour donner le point de vue, en gros, la même chose que j'ai demandé à Laurent, mais pour lui demandant de représenter son secteur, entre guillemets. On continuera par Paris, et puis après, ce sera la parole à la salle, en espérant que les sujets qu'on a choisis peuvent les réunir, mais ils peuvent également proposer évidemment d'autres thèmes de discussion.
Je ne sais pas très très bien ce que je représente en fait, mais je vais commencer par présenter moi-même, puis on verra ce que vous en pensez. Pour rebondir un peu sur ce que disait Paul, je crois que c'est criant sur l'aspect négociation, mais c'est vrai aussi sur l'aspect recherche, comme on l'a vu toute la journée. Il y a une question de frontières de ce dont on discute et de comment cette problématique-là interagit avec les autres problématiques. Dans les négociations climat, au fur et à mesure, on a vu s'élargir les domaines avec des sous-groupes sur l'agriculture, des sous-groupes sur la gestion de l'eau, des sous-groupes sur la réduction des risques, alors que par ailleurs, il y a d'autres enceintes qui discutent de ces choses-là. Toute la question du lien entre adaptation et risque, la communauté internationale a créé le Yogo Framework for Action en 2005 pour faire du partage d'expériences et du partage de connaissances sur la gestion des risques. Et on a vu les négos climat rentrer sur ce secteur-là et les gens se marchaient un peu sur les pieds sans que ce soit très clair. Et on a le symétrique parfait dans le monde de la recherche où, pour avoir participé au rapport spécial du GIEC sur les risques, il y a eu un conflit du début à la fin entre les gens qui faisaient de la gestion des risques et les gens qui faisaient du climat ou de l'adaptation au changement climatique. Et d'ailleurs, si vous prenez le rapport et vous regardez les chapitres, c'est assez facile de deviner dans chacun des chapitres qui c'est qui a gagné. Si ceux qui parlaient les plus forts et qui étaient les plus agressifs, c'était des gens du climat ou des gens de la gestion des risques, parce que les chapitres sont complètement différents, parlent de choses différentes, sont parfois incohérents sur les termes, etc. Donc on voit bien à la fois en opérationnel et en recherche, il y a vraiment ces deux problématiques-là. Et on a ça sur l'opérationnel terrain et on a ça dans la négociation. Et dans le rapport sur la croissance verte que la Banque mondiale a publié le mois dernier, on fait un focus sur la question des infrastructures, puisque pour la croissance verte, pour l'adaptation, gestion de l'eau, etc., les infrastructures sont clés. En fait, si on regarde, aujourd'hui, si on prend l'Afrique, il y a 40% des gens qui ont l'électricité, autour de 50% qui ont de l'eau améliorée, peut-être 35-40% sur de l'assainissement. Donc finalement, quand on parle d'adaptation au changement climatique, avant tout, la première question, c'est comment est-ce qu'on règle ce problème d'absence d'infrastructure, qui est un problème sur lequel on travaille depuis 50 ans, avec très très peu de succès. Et donc en fait, on se ramène plus ou moins au problème précédent, et la question climatique et d'adaptation vient modifier la façon dont on a envie de le régler, on n'a pas envie de concevoir les infrastructures de la même façon, etc. Mais quand même, on en revient au problème de fond, qui est l'incapacité à financer de l'infrastructure dans les pays à bas revenus. Et ça, c'est un problème qui n'est pas nouveau. Et le risque, c'est de, en reprenant tout au début, de refaire toutes les erreurs, toutes les discussions qui ont abouti à rien sur l'aide au développement au cours des 40-50 prochaines années. Et dans les négos, encore une fois, c'est frappant de voir la différence entre les ONG d'environnement, les Greenpeace, WWF, etc., et les ONG de développement, qui ont souvent des positions qui sont très très différentes sur notamment le rôle des institutions, de la construction de capacités, etc. Et donc je crois que ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'on a un problème qui est assez bien identifié et qui est symétrique dans la recherche, l'opérationnel et la négociation. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne sait pas du tout comment le régler. Mais je crois que du coup, chacun a un peu son rôle à faire. Et pour terminer sur l'exemple que citait Paul sur le renforcement de capacité, moi, de ce que je vois, de ce que la Banque mondiale fait en projet de renforcement de capacité sur les aspects climat, globalement, j'ai l'impression que pour un dollar investi, on en récupère beaucoup moins qu'avec des projets de recherche comme le projet AMA, qui a créé des centres de compétences en Afrique et qui a vraiment fait du transfert de connaissances et de la création de capacités. Et donc finalement, sur ces notions de capacity building, de construction de connaissances sur place, finalement, c'est peut-être par la recherche qu'on arrive à faire mieux. Et donc là encore, c'est en faisant des connexions qu'on doit pouvoir arriver à faire des progrès. Donc j'ai l'impression de me répéter un peu par rapport à ce matin, mais aller voir ce que font les autres et voir ce qu'on peut apporter aux activités des autres, je pense que c'est vraiment la clé, d'où l'importance de ces réseaux qu'il faut arriver à faire vivre malgré le manque de temps de tout le monde.
Alors, Marie et Mondon, Marie a été là seulement une partie du temps, mais moi je voulais un peu l'interviewer, et bon, elle a terminé par une liste d'incertitudes. Avec des boutirails, il y en a 9 catégories, comme ça. Alors, quel est ton... Bon, t'as mis les choses à plat, et puis ça ne nous sert pas à grand-chose de les mettre à plat. À l'intérieur de la ville de Paris, vous avez des idées sur les priorités, les choses sur lesquelles vous avez vraiment des besoins, éventuellement vis-à-vis de la recherche, ou des choses que vous pouvez éventuellement ignorer, au moins dans un premier temps.
C'est un peu dur cette question là maintenant, puisqu'on est en train de finaliser le diagnostic de vulnérabilité, donc on n'arrive pas à avoir
donc
une vision. C'est un peu ça. En termes d'enjeux prioritaires, j'ai envie de commencer par dire que c'est vrai que la ville de Paris, on n'est pas dans la zone du pire en ce qui concerne les risques climatiques. On a quand même des. Un climat relativement clément pour l'instant et relativement aussi des moyens de s'adapter. Après, les plus grosses pressions qu'on a pour l'instant, c'est vis-à-vis de la chaleur, puisque la canicule de 2003 a beaucoup marqué les esprits. En termes d'inondation aussi, donc c'est pas une surprise que ça faisait déjà partie du premier plan d'adaptation. Chaleur, inondation, c'est les deux choses qui parlent le plus en ce moment. Et c'est les deux choses qui vont rester dans le plan d'adaptation qu'on va développer maintenant. Sachant qu'il n'y a pas que ça et qu'il va falloir développer les autres thématiques. En termes de santé, en termes de coordination des services, en termes de... Nous, les vraies questions, je pense, qui vont surgir, ça va être en termes de gouvernance. En termes de gouvernance, qui peut faire quoi, qui prendra quelles actions et comment coordonner le tout. Parce que finalement, on se rend compte qu'il y a déjà pas mal d'acteurs qui font certaines choses. Comment mettre en cohérence tout ça, c'est vraiment une question assez fondamentale, je pense. Et puis, c'est un peu l'état des réflexions actuellement. Je suis désolée, en effet, on reviendra dans quelques mois.
Non, t'as quelque chose à ajouter, parce qu'après, il va falloir quand même que la salle s'exprime.
On va laisser la salle s'exprimer, parce que sinon, je peux parler toute la soirée. Hein.
Bien. Intervenir. Ça, je dis, ça peut être relatif au débat que j'ai essayé de lancer, mais ça peut être également sur d'autres points. Bon, je crois que l'idée de pérennisation, c'est une chose qu'on va garder dans un coin. Pérennisation, en plus, pour nourrir, pour travailler de façon interdisciplinaire entre disciplines et acteurs. Mais pour le reste, oui.
Merci pour toutes ces contributions, ces questions. Moi, je pensais simplement, parce qu'on en discutait tout à l'heure, je suis membre d'un autre GIS, qui est un GIS qui s'intéresse à la démocratie et à la participation, qui est un groupe qui marche pas mal en ce moment. Et je me demandais quand même dans quelle mesure, justement, parce que bon, en appeler à la co-construction, à l'alliance multi-acteurs, à l'ouverture, etc., c'est devenu des mots d'ordre aussi extrêmement. Ravageur, parce que finalement, ce qui compte, c'est effectivement de voir des expériences prendre forme. On a des exemples. Et la question, c'est comment croiser ce mouvement de la démocratie participative qui est quand même très fort ces 10-15 dernières années. Et pour, disons, dans le champ de l'environnement, il y a quand même, c'est très, très imbriqué. Et tous ces dispositifs et ces manières de mettre en cohérence, parce qu'effectivement, un des problèmes, c'est quand même que chaque instance essaie finalement de réorganiser tout ça sur des agendas ou des plans. Et on a l'impression que finalement, où se passe l'articulation avec tous les acteurs de la société civile, là j'avoue que je ne le vois pas très bien et je pense qu'il faudrait quand même arriver à croiser ces deux mouvements de manière plus nette. Sinon, effectivement, il y a séparation de deux plans. Alors, effectivement, il y a les ONG qui se débattent. Effectivement, c'est assez juste. Moi, je vois bien les ONG environnementales. On l'a vu aussi avec un collègue qui travaille beaucoup sur la gouvernance et la corruption, par exemple. Transparency International, tout ça. Il y a des luttes sur le terrain pour arriver à imposer des priorités. Et effectivement, le troisième terme, qui est la société civile, qu'on invoque souvent, comment vous le placez dans le dispositif ?
D'autres éventuellement dans la salle peuvent vouloir répondre plus particulièrement à cette question, mais comme tu as l'air de vouloir prendre la parole.
Non, mais c'est vraiment un point qu'on rencontre tout le temps, et sur l'adaptation, il y a une bataille entre community-based adaptation, où c'est censé remonter les solutions de manière bottom-up, etc., et puis des choses beaucoup plus top-down, où on envoie trois experts qui expliquent comment il faut répondre à la question. Et effectivement, l'enjeu, c'est de faire un peu quelque chose d'intermédiaire. Et les solutions dont je parlais ce matin, c'est un peu des essais pour faire ça, c'est-à-dire de laisser quand même la place, parce qu'on voit bien que community-based adaptation, quand c'est des choses qui sont marginales, ça marche très très bien. Il y a des tas de bonnes idées qui ressortent, Mais c'est sûr que quand on arrive à avoir besoin de choses un peu radicales, ça ne fonctionne pas du tout. Et donc on a vraiment besoin de combiner les deux. C'est très lié à la façon dont la gouvernance fonctionne. On va sortir un livre sur Xynthia à l'automne, dans lequel on arrive à mettre en évidence très très bien que l'un des facteurs de la catastrophe, c'est la concurrence entre des communes proches qui sont en compétition pour attirer de la population, des touristes, etc. La commune qui protège son littoral et réduit les risques, n'étant en gros celle qui fournit les services pour attirer les touristes, dont profitent les gens de la commune d'à côté qui ont construit les hôtels. Et donc l'échelle spatiale ne va pas du tout. J'ai reçu deux coups de fil la même après-midi de la mairie de Paris et de la région Île-de-France pour me prévenir qu'il y avait un appel d'offres pour l'adaptation sur Paris. Donc les deux ont mené des consultations séparées. Donc en termes de gouvernance en France, il y a un point qui paraît hyper évident, c'est vraiment renforcer les agglomérations et les communautés de communes au détriment des maires. Je pense que si on enlève le droit de donner les permis de construire aux maires, on a réglé une bonne partie du problème. Maintenant, c'est interdit de le dire, donc on ne peut pas le dire, mais tout le monde le sait, etc. Donc c'est aussi un moyen, sur la gestion des risques, clairement les maires sont dans des situations impossibles parce qu'ils sont trop vulnérables à des votes, à interdire de construire. Je connais bien le sud de la France, pour les maires, même ceux qui veulent, ils n'ont aucune chance d'interdire de construire dans les zones inondables, c'est pas possible. Donc il n'y a qu'une remontée en échelle vers des échelles un peu plus grandes où on peut faire un peu plus d'arbitrage et où on est un peu moins soumis à 300 électeurs énervés à un moment, qui permettrait de faire des choses comme ça. Maintenant on voit bien l'état de blocage dans lequel on est sur ces sujets là donc il n'y a pas vraiment de réponse facile.
Tu as parlé de croisement, hein. C'est un terme que tu as employé, croisement entre... Non, parce que le croisement, ça peut être pris de deux façons. Ça peut être le truc qui est une urination, ça peut être le truc qui est une urination, puis ça peut être uniquement, pour des raisons événementielles, les deux chemins, les deux trajectoires se croisent. Pourquoi ne pas profiter de certaines choses? C'est pas du tout la même intensité. Alors, tel que tu vois les choses, en particulier par rapport à ce que tu nous as présenté ce matin, c'est-à-dire que l'importance et les processus, enfin, il y a beaucoup d'autres choses, mais enfin, je crois qu'effectivement c'est quelque chose d'important ce que tu as dit là. Finalement, ça, on va plutôt, l'adaptation étant, on l'a vu dans le cas d'Ho Chi Minh, conçue de la même manière, donc on va plutôt vers des hybridations. Et ça, comment les faire, quoi? Comment les faire? Quel dispositif mettre en place? Déjà entre chercheurs, mais on l'a vu, là on est déjà dans ce que les Suisses appellent le transdisciplinaire, c'est-à-dire les acteurs et les disciplines en même temps. Vous avez engagé des initiatives dans ce domaine, dans ce GIS?
On travaille avec des acteurs qui le font. Ce n'est pas le rôle du GIS, parce qu'il est financé par le CNRS, n'est-ce pas? Il va surtout permettre à des acteurs de discuter de leur expérience participative, et ça rejoint d'ailleurs, ça recoupe une partie du programme Repère par exemple sur sciences participatives, on est tout ça. Je pense que ce qui est important, c'est de regarder comment, une fois qu'on le volet adaptation est à ce point présent chez beaucoup d'acteurs, la dimension participative devient encore plus importante, me semble-t-il, que sur la phase alerte et mobilisation de la science dans un premier temps. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment des choses à regarder, et effectivement, ça pose la question de politique, parce que tout ça, enfin, les élus, notamment les élus locaux, on le voit déjà sur les débats publics, hein, ont un problème avec ce processus, c'est clair. Alors, je parle, la ville de Paris a mis de la participation beaucoup dans sa charte, donc quel est le point de vue sur ces questions-là?
Encore une question facile.
Oui, bonjour. Sylvain Lasson de la chaire économie du climat. J'avais une question, je pense, plutôt pour Stéphane Algat. Cette fois-ci, je pense que ça sera avec sa casquette Banque mondiale qui me répondra plutôt, ou peut-être aussi personne. Il y a deux ans, j'étais à la conférence de l'ONU à Cancun, et j'ai beaucoup suivi ce qui pouvait se dire sur la question de l'adaptation. Notamment la France portait, il me semble, à cette époque, un projet d'électrification de l'Afrique. C'était un an après donc, la conférence de Copenhague, avec le Green Fund Copenhague. L'impression que j'ai un peu de ces notions d'adaptation, notamment dans les pays moyennement avancés et tout ça, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui à essayer de mettre sous la cape adaptation au changement climatique ce qu'on n'a pas réussi à faire ces 50 dernières années en tant qu'aide au développement. Aussi bien que ce soit sur la question d'électrification, sur la question d'eau potable, sur toutes ces questions-là. Donc, est-ce que vous partagez éventuellement cette impression-là? Et est-ce qu'il s'agit en fait de réallocation de fonds qui avant étaient sur les questions de développement, qui aujourd'hui sont sur les questions d'adaptation, ou c'est des fonds additionnels vraiment spécifiques à l'adaptation qui sont disséminés sur ces différents projets?
Moi, je veux bien répondre en tant que Banque mondiale, mais à ce moment-là, il faut que chacune de mes phrases soit validée 8 fois par 8 personnes différentes. Donc, je vais plutôt répondre en mon nom propre. Ça sera plus simple. Le cas que vous citez sur alors, c'était pas que l'électrification et c'était pas que l'Afrique. C'était un grand projet infrastructure dans les pays en voie de développement que finalement le ministère de l'Environnement avait fait tout seul parce que les gens qui avaient fait du développement pendant 40 ans ne voulaient pas participer à un projet qui était exactement ce qui avait échoué, ce qui avait un échoué pour des raisons techniques et deux échoué pour des raisons politiques parce que on a un peu passé l'époque où la France, les fonctionnaires français décident de quelle route on va construire en Afrique. Donc forcément toute la communauté du développement avait refusé de participer, du coup ça avait été fait par des gens qui n'étaient pas forcément extrêmement compétents dans le domaine et ça avait fait un ouvrage qui avait posé quelques difficultés pour parler en termes politiquement corrects. Donc là c'était exactement ça, essayer de mettre un grand coup sur l'aide au développement pour convaincre des gens de changer de camp avec des recettes qui avaient échoué par le passé et qui de toute façon n'étaient pas crédibles parce que personne n'avait jamais dit d'où venait l'argent. Donc l'échec n'était pas surprenant. Pareil sur le 0,7% du PIB, engagement des pays riches dans une négociation qui devait être à Stockholm, il me semble, en 1972, qui a jamais été tenue et qui revient sur la table systématiquement dans les négociations climat et qui empoisonne ces discussions-là. Donc, je crois qu'effectivement, le vouloir rouvrir une nouvelle route côté climat, ça a été quelque chose qui a été tenté et qui a échoué parce que on n'arrive pas à convaincre les gens d'oublier tout ce qui avait été fait et promis du côté développement pendant 40 ans. Il me semble que sur le cas de l'électricité, par exemple, on a tellement appris en essayant de faire de l'électrification rurale avec des échecs cuisants qui ont coûté beaucoup d'argent que c'était vraiment hallucinant de repartir de zéro comme ça avec les mêmes recettes, surtout à une époque où finalement on avait des nouvelles solutions techniques comme le photovoltaïque et des choses qui ne dépendent pas de grands réseaux qui commençaient à être disponibles. Après, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit parce que on n'a pas vraiment d'alternative. La question du climat se réglera pas sans la question du développement, et ça devient à un moment tellement complexe qu'on ne sait plus vraiment gérer. Je pense que Paul ne me contredira pas si je dis que les négociations climat sont devenues effrayantes quand on y arrive pour la première fois de leur complexité et de toutes les questions qui y sont posées. À ça s'ajoute le fait que pour les ONG, c'est l'un des rares forums, c'est beaucoup plus ouvert que les autres forums internationaux. Et donc c'est vraiment l'endroit où toutes les demandes se font, ce qui ajoute encore une tranche de complexité. Et le fait qu'à Rio, là aussi, la société civile sera très très présente. On se demande un petit peu comment l'articulation va être faite entre les premiers jours société civile et la négociation gouvernement juste derrière, sachant que c'est tellement rapproché qu'il n'y a pas de temps pour absorber, filtrer et diffuser. Donc au-delà des annonces, on ne voit pas très bien comment ça peut vraiment changer quoi que ce soit. Donc c'est un peu triste parce que c'est vraiment pas une solution que je dis là. Par contre, le constat, je crois qu'aujourd'hui, il est assez partagé.
Oui, c'est... Ça marche ?
Ouais, ça fait un bruit lorsque je le touche, donc ça doit marcher. Oui, juste, je suis assez d'accord avec Stéphane. On ne va pas refaire l'ensemble du débat sur le développement qu'on a eu. La question, c'est comment progresser maintenant ? Comment avancer dans un monde où il y a un besoin criant de développement durable et de mettre ces éléments ensemble ? Et là-dedans, le climat, que ce soit la maîtrise des émissions ou la tenir compte des impacts des changements climatiques, avec toutes les incertitudes qui ont été mises en évidence J'ai entendu clairement hier et je n'ai pas suivi ce matin, mais clairement, c'est quelque chose qui pèse. On ne peut pas simplement dire, voilà la recette, c'est simple. C'est quelque chose, les gens doivent savoir réagir. C'est pourquoi je suis revenu sur les institutions. Je trouve la question de faire les liens et pas dupliquer tout ce qui est fait dans le domaine de la gestion des risques, c'est essentiel. Et c'est vrai qu'on a porté des projets à quelques moments. La question de l'accès à l'énergie reste un sujet essentiel. Et ce n'est pas une question de on fait ça pour les négociations, on fait ça pour ça, mais si on regarde le développement dont nous avons besoin au cours des décennies à venir pour tous les pays du monde, s'il n'y a pas d'accès à l'énergie, s'il n'y a pas l'eau, si on n'a pas les autres problématiques de base de développement qui sont fournies, que le développement réussisse dans ce domaine, on ne va pas résoudre non plus le problème climat. Et ça dans tous les pays. Donc il faut mettre ensemble ces problématiques et les traiter de façon cohérente. Donc c'est à ce moment-là, essayer de dire que le financement pour le climat, c'est quelque chose d'à part, ça ne marchera pas. Et on n'arrivera pas à résoudre le problème de cette façon-là. Ce n'est pas l'intégration, mais on est conscient qu'il faut mobiliser plus. Et je pense que ça, c'est le débat qu'on a devant nous. Comment est-ce qu'on va mobiliser plus et ensuite mieux utiliser ce qu'on arrive à faire pour répondre aux exigences croisées liées au développement, prise en compte des impacts des changements climatiques, avec toutes les incertitudes qui pèsent dans ce domaine, et développement qui est également sauvant carbone pour tous. Et juste parce que j'ai la parole, je me permets de réagir également à quelque chose qu'a dit Stéphane tout à l'heure. Je trouve très très intéressant ces questions d'utiliser la coopération dans le domaine de la recherche également comme étant un vecteur essentiel. Je n'ai pas parlé de moi-même, mais je trouve ça quelque chose que nous appuyons pleinement. Ça va bien dans le sens de mobiliser ces réseaux, de les mettre ensemble. Je pense qu'on a besoin des deux. On a besoin de travailler avec les gouvernements, avec les institutions, faire du renforcement de capacité à part. On ne peut pas. Mais faire ça avec les instances, avec par exemple les fonds que mettent en place plusieurs gouvernements en ce moment. Le Bangladesh vient d'annoncer, je pense, 150 millions ou quelque chose de dollars d'investissement via son fonds climat. Ces jours-ci, c'est peut-être encore plus, je ne me souviens plus du chiffre, exactement dans le domaine de l'adaptation. Donc, il y a des instances qui se mettent en place et qui permettent aux pays de renforcer leur capacité. Ils font cet effort. Donc, il faut travailler avec eux, il faut travailler avec les centres de recherche dans ces pays. Parfois, il faut aider la mise en place de nouveaux centres. Et je pense là, il y a tout un domaine, comment on va bosser avec ces réseaux, comment lier des structures comme celle-ci avec d'autres réseaux dans d'autres pays pour partager cette expérience et croiser exactement ça. Et je trouve que l'expérience de l'Ouest et ailleurs, c'est quand même quelque chose qu'on peut poursuivre et essayer de généraliser.
Nous, alors, on va terminer à 5h15, donc on a encore un petit quart d'heure. Une autre intervention
Oui, je y vais. Moi, je voudrais me demander si j'ai bien compris et donc si dans tout ce que j'ai entendu il n'y a pas un paradoxe. Bon, on connaît bien les grands blocages qui ont lieu au niveau international quand il s'agit des négociations autour du changement climatique. Bon, on sait aussi que finalement c'est sans doute par des avancées locales, régionales, enfin au niveau du terrain, que les choses pourraient peut-être bouger le plus vite. Or, j'ai cru comprendre ce matin que c'est précisément dès qu'on veut décontracter les modèles pour les appliquer au niveau local, que les incertitudes deviennent de plus en plus grandes. Donc là, paradoxe, si c'est au niveau local qu'il est le plus efficace d'agir et si c'est à ce niveau que les incertitudes sont les plus grandes, comment s'en sortir? Vous en parlez beaucoup justement, à chaque fois vous donnez des exemples. Et ce qui apparaît quand on agit au niveau local, c'est en fait suite à des événements. Incendies, cyclones... etc., des ravages qui ont été faits et qui semblent alors à ce moment-là mobiliser les forces locales, mais autour de la façon de parer à une répétition de ces événements. Pour la ville de Paris, c'est très clair, vous êtes anxieux à chaque fois que l'été approche. Là, il y a une espèce de façon empirique, peut-être, par laquelle les choses peuvent avancer, qui, d'une certaine manière, résout le problème des incertitudes au niveau global, puisqu'on n'en parle plus. Est-ce qu'il n'y a pas un pragmatisme qui se met en place au niveau local qui précisément fait avancer petit à petit les choses sans qu'on soit complètement emprisonné dans cette question des grandes incertitudes au niveau planétaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que les actions qui peuvent avoir lieu au niveau local, il y en a de très simples et qui sont automatiquement labellisées pour lutter contre le changement climatique, c'est tout ce qui tourne autour de l'atténuation. L'atténuation, là, il n'y a pas de débat. On sait où on va, on sait comment gérer les problèmes énergétiques, la gestion des ressources, etc., etc. Et moi, je me demande si, d'une certaine manière, le passage à l'idée d'adaptation n'affaiblit pas l'action locale. Et s'il ne faudrait pas, justement... s'interroger sur la façon de prendre cette question du changement climatique quand on travaille au niveau local. Et presque, alors là, comment se débrouiller, comment vous avez des expériences chacun de votre point de vue, comment voyez-vous cette question-là? Est-ce que, justement, il ne faudrait pas s'interroger sur une vision pragmatique, alors là, je te rejoins, qui mobiliserait tous les acteurs locaux à travers toutes les procédures que vous avez si bien évoquées les uns les autres, Stéphane Algat notamment, et tout ça, dire là, quel, autrement dit, dans ces procédures-là, comment avoir prise pour les mettre en œuvre au niveau local sans être embarrassé par les incertitudes au niveau planétaire.
Enfin, une fois de plus, je suis toujours gêné avec ce vocabulaire embarrassé par les incertitudes. Moi les incertitudes ne m'embarrassent pas personnellement. Une fois de plus, je serais embarrassé par si par exemple ma barre d'incertitude est trop faible et que l'événement se produit en dehors de ma barre d'incertitude. Là, je suis très embarrassé, par exemple. Donc là, je suis très embarrassé parce que je sous-estime l'incertitude. Donc j'en ai un peu, je suis un peu agacé par cette vision de l'incertitude toujours négative, quoi. Et donc je crois qu'il faut bien réfléchir un petit peu à ça. Un autre aspect très important, et je crois que c'est l'aspect mémoire. Alors sur Cynthia, peut-être Stéphane pourra en parler, mais il y a les travaux d'Emmanuel Garnier qui montrent que quand on parle d'événements extrêmes, parfois pendant très longtemps, l'événement extrême ne se produit plus. Et puis il y a une mémoire qui se perd, et ça a des conséquences après en termes d'impact quand l'événement se produit de nouveau. Et dans le futur, on peut penser aussi que dans un climat qui se réchauffe, finalement l'événement extrême qui sera le plus dramatique, ce sera les vagues de froid. J'ai montré hier un petit diagramme qui montrait clairement que même en 2100, on aura encore des vagues de froid, peut-être de manière plus extrême, mais quand elles se produiront, on peut penser qu'en fait leur impact sera beaucoup plus important que ce qu'il est au jour d'aujourd'hui. Donc il y a des effets asymétriques qu'il faut pas prendre en compte. Et puis enfin, en fin de compte, oui, les gens prennent conscience souvent par des événements extrêmes. Ce qu'on essaye d'apporter des suggestions que ce type d'événement, les fréquences d'occurrence peuvent changer. Donc finalement, si on est dans un climat dans 50 ans où les températures, il n'y aura pas comme ça 5 jours tous les 30 ans où la température dépassera les normales pendant 5 jours de 5 degrés, mais que ça se produit de manière continue, ben c'est d'autres types de mesures qui seront prises en compte. Donc il faut bien faire attention, on ne parle pas tout à fait de la même chose, là, à mon avis. Donc voilà, c'est les deux. Mais sur Cynthia, je crois qu'il y a des choses intéressantes qui ont été faites, donc, et qui mettent un petit peu en valeur ces histoires de mémoire, et donc qui sont importantes.
Sur ces affaires de mémoire, moi j'ai une expérience personnelle qui est celle de prendre l'exemple de la canicule de 2003 pour parler de changement climatique, où pendant 3 ans, je sentais des frissons de crainte dans la salle, et à la 4e année c'était fini, mais terminé quoi. Donc là maintenant, la mémoire de l'événement, on se rappelle qu'il y a eu des morts, etc., mais l'impact sur la qualité de vie, etc., ça les gens s'en rappellent plus, et c'est très très clair. Sur le cas de Cynthia, effectivement, Emmanuel Garnier a un chapitre dans le livre qu'on va sortir là, où il montre très bien qu'il y a eu une gestion qui a été faite de manière intelligente de la zone, avec une mémoire de long terme qui était, à une époque où on n'avait pas tous les instruments pour mesurer le risque, les satellites, etc. Et pourtant, ça fonctionnait avec cette mémoire-là. Et qu'il y a un parallèle qui est assez amusant, où au moment où on se met à avoir des outils pour analyser, quantifier le risque, c'est le moment où on se met à l'oublier. Donc ça, est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce qu'il y a une causalité, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est extrêmement clair. Après, il faut quand même garder en tête que si on a l'impression que les gens géraient mieux le risque avant, c'est aussi que parce que pendant 10 000 ans, la population, elle augmentait quasiment pas. La croissance économique, elle était de l'ordre de 0,1% par an. Et ça, jusqu'en 1850-1900, où avec la révolution industrielle, on se met à la population qui explose et le patrimoine, les infrastructures qui explosent. Et donc la mémoire devient beaucoup moins bonne parce que de toute façon, on est en train de tout changer tout le temps. Et donc regarder le passé pour prévoir l'avenir marche beaucoup moins bien quand on est dans un monde qui évolue très très vite, plutôt que dans le monde très très stable qu'il y avait précédemment. Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas su remplacer par nos outils quantifiés et nos analyses la bonne vieille mémoire d'avant, et que sur le cas de Cynthia, c'est très très clair que ça marche beaucoup moins bien aujourd'hui. Et juste pour un point positif sur l'action locale en ce moment, elle y est partout. Alors c'est vrai qu'en Europe, on est un peu biaisé là, parce qu'il ne se passe plus rien, c'est même plutôt en train de rétro-pédaler, mais voir ce qui se passe dans les émergents et les pays en voie de développement, c'est assez impressionnant. Les Chinois sur le climat, ils ne bloquent que dans les négociations internationales. Chez eux, ça envoie, et ça envoie à des niveaux qui sont incomparables avec ce qu'on n'a jamais eu en Europe. Et ce que disent les gens qui travaillent avec moi et qui travaillent avec les Chinois, c'est vous inquiétez pas, le jour où ils se sentiront prêts, ils signeront tous les papiers que vous voulez, et là ils sortiront tous leurs produits à vendre, etc. Et ça va vraiment très très bien se passer. Donc il ne faut pas se laisser. C'est vrai que les grandes négociations, etc., c'est vraiment ce qui rythme l'actualité médiatique dans nos pays, et on se fait un peu leurrer par ça. En pratique, un peu partout, il se passe des tas de choses et ça change vraiment très 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 vite. Les Chinois, il y a 4 mois, ont reconnu dans un document signé par les Chinois que sur leurs 9-10% de croissance, il en restait plus que 5 si on enlevait la dégradation environnementale. Alors, qui aurait attendu quelque chose comme ça il y a 2 ou 3 ans? Donc moi, je ne suis pas aussi pessimiste que beaucoup. On est en train de préparer des solutions à l'échelle locale et nationale. Quand elles seront prêtes, ça pourra être diffusé à l'échelon mondial. La question, c'est qu'on court derrière le temps, qu'on a raté les 2 degrés et qu'il ne faut pas que ça traîne trop, quoi.
Ok. Une dernière question, alors.
C'est juste un petit témoignage. Moi, je voudrais témoigner de ce qui s'est dit à Marseille, là, au Forum mondial de l'eau, puisque j'animais avec l'UNESCO une partie des débats sur ou les changements climatiques. Moi, j'ai été frappé par le fait que la communauté de l'eau, actuellement, elle manque d'outils pour prendre en compte le changement climatique dans le plan de la planification des eaux. Alors, vous avez longuement expliqué tous les problèmes d'incertitude sur la connaissance de l'hydrologie, incertitude sur les impacts sur les usages, plus, effectivement, se rajoute pour la communauté de l'eau l'incertitude sur les changements globaux, qui sont aussi importants, que ce soit, effectivement, les évolutions démographiques ou la sécurité alimentaire, qui jouent aussi fortement et qui peuvent être aussi souvent d'un ordre peut-être plus important que le changement climatique. Donc c'est dur pour la communauté de l'eau de mesurer souvent l'importance du changement climatique par rapport aux autres changements globaux. Donc c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que j'ai le sentiment qu'on a beaucoup plus travaillé sur le climat et les modèles que sur la partie hydrologie. Moi, je l'avais vu quand j'avais participé au plan d'adaptation au changement climatique français, où j'avais été frappé qu'on faisait dire beaucoup plus de choses à l'hydrologie par les modèles climatologiques que, en partant tout bêtement, de l'hydrométrie ou de la connaissance de nos nappes. Et on s'est aperçu que nos réseaux de surveillance et l'exploitation de nos réseaux de surveillance étaient extrêmement déficients. Alors, je vous laisse deviner qu'est-ce que ça veut dire pour le représentant de l'autorité du bassin du Niger qui participe à nos travaux dans un pays en développement. Nous sommes dans un pays où on a des réseaux extrêmement performants, qu'est-ce que c'est dans les trucs? Alors, les conclusions que j'ai retenues de Marseille, ça n'empêche, ce que je dis, ça n'empêche qu'il y a quand même beaucoup d'expérience qui se mêle. Et j'ai été frappé, en France, on n'est quand même pas si mauvais que ça, on a quand même, avec nos agences de bassin, il y a plusieurs expériences intéressantes, mais j'ai été frappé quand même que nos partenaires étrangers, notamment les Anglais et les Américains,
avait beaucoup plus travaillé en conséquence sur ce que ça voulait dire que la planification en avenir incertain ou le problème des solutions résilientes pour le monde de l'eau. Et je crois que c'est un sujet sur lequel on devrait investir. Bon, je veux dire, on a conclu de Marseille que l'on souhaitait engager quand même trois grands types de travaux. Je vous le signale maintenant quand même, c'est quand même important. Un, ça concerne plus directement la communauté scientifique. Ça consiste à dire qu'il faut aujourd'hui organiser un débat beaucoup plus approfondi entre le monde des hydrologues et des gestionnaires des nappes et le monde des climatologues. Donc ça, c'est un petit peu c'est un des points de fond. Un deuxième point qui est évident, c'est qu'il y a beaucoup d'expériences de bassins versants pilotes qui sont menées de par le monde, il faut mettre ça en réseau, c'est évident. Puis il y a un troisième point qui est très important, il y a toujours un grand oublié, que c'est le fonctionnement des nappes, et qui sont quand même un des points fondamentaux pour les gestionnaires de nappes. Donc effectivement, là aussi, il y a beaucoup à travailler. Donc moi, je crois que c'est vrai que, enfin, apparemment, la communauté internationale de l'eau a l'air décidée un petit peu à vouloir travailler sur ces sujets avec l'UNESCO, et moi, je crois que c'est intéressant de mettre en réseau, parce qu'on a notre expérience française, mais je m'aperçois que, je me suis aperçu à Marseille, qu'on avait beaucoup à apprendre quand même souvent des expériences de pays voisins. Voilà, un peu, enfin, ce que j'ai retenu de Marseille.
Oui, alors la dernière vraiment, et encore sur l'eau.
Désolé. C'est aussi les écosystèmes. Avec le débat, c'est l'eau et les milieux aquatiques. Donc c'était peut-être une note un peu positive, mais pour dire que parfois aussi le changement climatique permet de rouvrir des situations qui paraissent bloquées. Notamment, pour reprendre l'exemple de l'eau en France, dans certains bassins, on sait que notre utilisation de la ressource en eau est déjà pas adaptée au climat actuel. Mais c'est des situations qui sont très difficiles à faire reconnaître par les acteurs locaux. Et donc de reprendre le problème en disant en 2070 ou en 2080, le climat va changer, donc la donne change, donc on ne sera plus adapté avec nos pratiques actuelles. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'adapter ? Et là, ça permet de rouvrir peut-être le débat de façon plus sereine, puisqu'on parle d'un monde hypothétique dans un avenir un peu lointain. Donc peut-être ça peut être aussi une piste justement pour arriver à ces fameuses mesures sans regret dont on parlait, puisque sans regret, mais sans regret pour qui ? Parce que si vous demandez à l'ONEMA qu'est-ce que c'est qu'une mesure d'adaptation sans regret, on va vous dire atteindre le bon état des eaux, comme demandé par la directive, et le bon état écologique, une mesure sans regret pour avoir des écosystèmes résilients qui vont s'adapter. Et si vous demandez peut-être à des agriculteurs, ils vous diront une mesure sans regret, c'est de créer un tas de retenues de substitution qui permettront de pallier le déficit hydrique. Donc je serais assez intéressée, peut-être ultérieurement, de savoir quelle est la méthode utilisée dans les groupes de travail, présenté par Stéphane Algat sur comment définir ensemble ce qu'est l'échec et ce qu'est le succès.
C'est surtout l'ONER qui pourrait parler de ça. Si vous aviez vu la DPRI pour ouvrir le dossier zone inondable sous l'étiquette adaptation au changement climatique, parce que sous l'étiquette gestion des zones inondables, c'est devenu impossible. Et que c'est encore mieux que ça, parce que le changement climatique, on peut dire en plus, c'est la faute des vilains américains et chinois. Donc en plus, on a des gens qu'on peut détester, c'est encore plus facile de se mettre d'accord. Effectivement, le dossier a été complètement rouvert de zéro sous cette étiquette-là, sans quasiment aucun changement autre que l'étiquette dessus. Ce qui était, ce que j'ai trouvé une excellente idée, et qui a relativement bien marché, puisqu'il y a eu de nouveau des débats, etc. Donc ça, effectivement, c'est une opportunité. Ça n'a pas l'air d'être suffisant pour mettre d'accord les agriculteurs et les directives européennes, mais en tout cas pour la gestion des zones inondables, ça a été, j'ai trouvé ça assez efficace. Je ne sais pas si tu as le même sentiment.
Effectivement, c'est une question essentiellement de présentation pour ce point précis. Mais malgré tout, le climat, mais ça a déjà été dit par Paul, je crois, c'est aussi un prétexte à se mettre autour de la table et à parler ensemble de sujets qui ont pu fâcher pendant très longtemps. Et la question de l'inondation, c'en est un, et il faut s'en saisir, et tant mieux. Et c'est plutôt une note positive. Maintenant, les solutions qui posaient les problèmes il y a 20 ans, on a peut-être moins de tabous aujourd'hui par rapport à certains acteurs, on a d'autres tabous qui sont arrivés, et c'est important de se parler et de chercher des solutions. Et à partir de là, il faut construire un processus itératif, comme l'a expliqué Stéphane. Mais c'est important de rester autour de la table et de se parler. Et la question de la ressource en eau, au même titre que, que le problème des inondations, c'est quelque chose de majeur dans le sens où la ressource en eau, c'est complètement transversale et ça touche tous les secteurs. Donc, parler de l'accès à la ressource, employer des gros mots comme arbitrer l'accès à la ressource, déjà c'est difficile, mais c'est difficile à dire, c'est difficile à entendre. Mais sous l'angle changement climatique, eh ben, on n'a pas le choix. Donc il faut se le dire, il faut en parler, et à un moment, il va falloir arbitrer. Maintenant, la meilleure manière, c'est de le faire collectivement, de le faire le plus intelligemment possible, mais l'arbitrage est nécessaire. Et encore, en France, on est un pays où on a beaucoup d'eau par rapport à d'autres. On est un pays où la ressource en eau, ce n'est pas une ressource rare. Maintenant, l'accès à la ressource et les arbitrages d'accès à la ressource sont quand même compliqués parce que on veut en faire beaucoup de choses de cette ressource et on ne peut pas tout faire avec. Et à l'avenir, on pourra peut-être faire encore moins de choses, au moins dans certains endroits où les signaux climatiques de descente d'échelle sont robustes.
En tant que GIS, je voulais vous dire à quel point j'ai été intéressée par l'ensemble des interventions, aussi bien sur la scène que dans les fauteuils, disons. Il y a une personne qui n'a pas pu venir parce qu'il rentre de Rio, il arrive en France en arrivant de Rio ce lendemain matin. C'est Sander van der Leu qui actuellement dirige un très gros laboratoire à Asie, l'Arizona State University, et sur lequel, dans lequel il y a des très gros programmes qui ont été faits, de partenariats avec la ville de Phoenix sur la question de l'eau qui est terriblement cruciale là-bas, et où des dispositifs originaux ont été mis pour discuter de l'incertitude, à savoir on prend des décisions en situation d'incertitude, en sachant. En faisant, chacun reste à sa place, les scientifiques parlent de leurs affaires et ils ont donc des grandes confrontations entre scientifiques, les professionnels et puis les élus, l'administration, etc. Et ce qui fait que ça aurait été très intéressant, mais du coup je vais parler juste de deux ou trois réunions où j'ai été aux États-Unis cette année, où ce travail se fait et c'est absolument extraordinaire. Il y a une association sur l'environnement qui a été créée par des scientifiques, par 500 scientifiques, qui chaque année convoque, qui se trouve à Washington devant la Maison Blanche, et convoque le Congrès pour discuter pendant 3 jours d'environnement. Et pour une Française, c'était assez étonnant de voir que pendant 3 jours, on a eu des conseillers d'Obama qui ont été avec nous, on a fait des recommandations, et les recommandations ont été triées, et elles ont été montées à la Maison Blanche. Ensuite, on est en train de regarder le trajet pour certaines décisions. Mais ce genre de choses, on aurait peut-être intérêt à s'en inspirer, parce que tout ne se fait pas, évidemment, Obama. Ça s'est fait même sous Bush, hein. Apparemment, simplement qu'il y a plus d'écho maintenant bienveillant par rapport à cela. Et je vous rappelle aussi, parce que avec la mairie de Paris, avec certains maires adjoints de Paris, on essaye de mettre en place des choses un peu plus que le scientifique de service qu'on convoque pour un problème particulier. Bloomberg à New York a une équipe de scientifiques qui participent à certaines études, et non seulement études, mais décisions. Et apparemment, ça je ne sais pas, je ne l'ai pas vérifié, donc je connais les gens qui travaillent avec Bloomberg, il a une immense table. Personne n'a de bureau et tous les gens sont obligés de travailler à la même table, comme ça, même s'ils se détestent, même s'ils sont en rivalité terrible, etc., ils sont obligés de travailler ensemble. Et je vous conseille de voir les livres qui sortent et qui sont quand même beaucoup plus approfondis que ce que pour l'instant on fait à Paris, mais j'espère qu'à Paris on va aller de mieux en mieux. Ça a tellement changé déjà depuis 10 ans, on a toutes les espérances pour la suite. j'en finis là.
Merci Chantal pour ces témoignages. Claude est obligé de partir pour avoir son train. Et je pense qu'il faut clore là, parce que ce nombre de personnes vont être dans la même situation. Je remercie toutes et tous pour leur participation, en particulier tous les orateurs et qui ont bien voulu donner de leur temps. Et je pense qu'on a eu pas mal d'interactions fructueuses. On mettra l'idée est de pouvoir mettre les présentations sur le site web du GIS, peut-être même aussi sur NSS, je ne sais pas si on peut avoir, vous faites un lien. Ce sera accessible de différents endroits, avec évidemment l'accord des orateurs, et on espère vous voir à d'autres occasions, d'autres manifestations. Merci à tous et à toutes.
Au revoir.